Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans Punchline avec nos invités pour parler de ce qui se passe en Ukraine et bien sûr en Russie. Vladimir Fedorovski est avec nous. Bonsoir, vous êtes écrivain, ancien diplomate russe, ukrainien aussi de par vos origines. Vous publiez Poutine, l'Ukraine, les faces cachées chez Ballant. On est avec Vincent Hervouet, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir mon cher Vincent. Bonjour. Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et François Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS. Exact. Bonsoir, votre livre, c'est La bataille des mots. On va en parler dans un instant. D'abord l'Ukraine, donc ce qui s'est passé ce matin à Moscou avec ce défilé de l'armée russe sous les yeux de Vladimir Poutine. On fait le point avec Marine Mulsey et puis on va voir ce qu'il ressort de cette journée, notamment des mots employés par Vladimir Poutine.
C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou. Alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident, avant d'encourager ses troupes, engagées selon lui dans une guerre patriotique.
Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas.
Un discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'Apocalypse. L'Ilyuchin Il-80 n'a pas volé depuis 2010.
Voilà pour ce qui s'est passé ce matin. Vladimir Fedorovski, est-ce qu'on peut se féliciter de ce qu'a dit Vladimir Poutine? J'entends ici et là, ça y est, c'est la désescalade, il n'a pas annoncé la guerre, il n'a pas annoncé la mobilisation générale. Est-ce qu'on a écouté vraiment ce qu'il dit? La façon dont il accuse les Américains.
On a écouté. Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous en pensez,
beaucoup. Vous savez, ce matin, j'étais désemparé. J'étais désemparé parce que nous étions dans l'escalade. Tous les jours rajoutés à l'escalade. Et finalement, je ne vous cache pas que je suis arrivé à la conclusion qu'on vivait ce matin. Le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'aurais pu vous développer, mais évitons ça. Et surtout, c'était le symbole. L'avion, c'était le symbole. L'apocalypse.
Et il n'a pas défilé. Pourquoi ?
Et il n'a pas défilé. Je pense qu'il a compris qu'on est allé plus loin. J'étais vraiment, pour moi, c'est une journée très importante. Ces déclarations et les déclarations du président Macron, on va en parler.
Absolument, dans
pourquoi
un deuxième temps.
Vous savez, on a utilisé beaucoup le mot « la guerre ». On dit « attendez, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident qui mène la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée ». Vous connaissez la célèbre phrase de l'ambassadeur qui a été prononcée, je crois bien devant l'ambassadeur français, qu'on va mener l'OTAN, il va mener en Ukraine la guerre jusqu'au dernier. Vous vous souvenez quand on était là, je crois, ensemble ici. Et vous savez, j'ai des origines ukrainiennes et russes, pour moi c'était, vous savez, la bataille de Zambas, c'est 50 000 morts. Et d'un coup, deux choses, deux phrases que je tiens à souligner. Tout d'abord, il a parlé de l'horreur
de la guerre totale. Globale et totale.
Je n'ai pas entendu dans sa bouche ce genre de phrase depuis un bout de temps, sous votre contrôle, parce que nous avons des amis qui sont les maîtres de l'analyse, notamment des dirigeants russes. Et puis, il y a deuxième chose. J'ai pensé qu'il va utiliser encore une fois le mot de la guerre à propos de l'Occident. Il a utilisé un mot beaucoup plus nuancé, la menace. C'est une autre chose. Et vous comprenez, ces deux choses, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas se leurrer, ça continue, mais un petit brin d'espoir.
D'espoir. François-Bernard Huyghe,
oui,
les mots ont une importance.
Alors, d'abord, les mots qu'on ne prononce pas. Il n'a pas prononcé de déclaration de guerre. Il n'a pas dit « nous sommes passés de l'état d'une opération spéciale à une guerre générale qui pourrait devenir mondiale ». Il n'a pas annoncé la conscription qu'on annonçait. Il n'a pas annoncé la menace atomique dont on parlait. Donc il y a énormément de thèmes qui ont agité les, on va dire, les rédactions depuis quelque temps, qui regardaient dans leur boule de cristal. Et qui l'a évité. Alors, de ce point de vue, effectivement, se contentant d'étaler le spectacle de la puissance, en rajouter la force du verbe, même si l'avion de l'Apocalypse n'est pas passé à cause
de la... C'était banal.
À cause de la météo, mais il était déjà passé il y a quelques années,
bien hein, sûr,
cet avion de l'Apocalypse. Bah, il me semble qu'il a évoqué deux thèmes, c'est le danger. Nous n'avons fait que répondre au danger.
C'est ça.
C'est pas une rhétorique très nouvelle, en ce sens que tout chef de guerre a tendance à dire qu'il n'a jamais fait que se défendre. Mais enfin, c'était quand même un élément intéressant. Nous n'avons fait que nous défendre et nous ne voulons pas de cette escalade et que ça aille jusqu'au bout. Et d'autre part, il a beaucoup insisté sur la continuité historique. Hein. Non seulement cette Russie du 9 mai, l'héritière de celle qui a vaincu le nazisme, presque toute seule, d'ailleurs, si on écoute son discours. Il n'a pas beaucoup parlé.
Si. Il a évoqué les Français.
Bon.
Il a évoqué les Anglais.
Les Américains.
Les Américains. Mmh. Et pour mon réconfort, il a dit, parce que dans ma famille, vous savez, il y a 11 personnes qui sont tuées souffrant sur la guerre, 6 Ukrainiens et 5 Russes. Et il a parlé, il n'a pas parlé des Russes, il a parlé de l'ensemble. Mmh. Et même... Détrompez-vous, la déclaration aujourd'hui et le fait que Zelensky l'a parlé le 9 mai, c'est aussi, ça va aussi, ouais, pas dans le sens de l'escalade, pas du tout.
Ouais. Donc, alors,
alors effectivement, il a ça, et donc c'était, d'ailleurs, vous parliez des portraits de vos ancêtres, et il y avait dans la foule des gens qui montraient les portraits de leurs ancêtres morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce côté du martyr est très important, et ça s'inscrit dans une très longue continuité qui est quasiment celle d'une civilisation russe. Enfin, on est vraiment dans la perspective de l'histoire.
Vincent Hervouet, rapidement, avant la pause, ce Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine le plus belliqueux que l'on ait eu à croire.
C'est toujours le même, à mon avis, mais je pense qu'il a déçu parce qu'on pensait que, comme il n'y avait pas eu de succès sur le terrain, il allait être contraint à avoir une sorte d'escalade dans le discours. Sauf que l'escalade, comme par exemple la déclaration de guerre ou la mobilisation générale, ça a des conséquences en politique intérieure lourdes, avec la mobilisation des conscrits, l'obligation de rendre des comptes, etc. Alors que pour l'instant, la guerre, elle est quand même au-delà de la frontière. Donc, là, je vous dis le moindre mal. Mais si vous voulez, la démonstration de force, qui est une parade militaire, elle se fait sur le théâtre des opérations. Quand on est en guerre, elle se fait pas sur la place rouge. C'est pas en briquant les boutons de guêtre, hein, c'est en prenant Avostal, qui n'est toujours pas tombé, c'est en prenant les villes, les petites villes du Donbass qui servent actuellement de verrou. Or, on voit bien que l'offensive, pour l'instant, elle ne piétine pas, mais elle est vraiment très, très, très lente. Et donc, bah, il mise sur le temps, il va continuer, rien ne permet de penser qu'il va s'arrêter. Quant à l'agitation de la menace nucléaire, les télés, les médias, les proches sans charge, il n'a pas besoin d'en rajouter.
Mm-hmm. Gilles Maintré.
Bah, le 9 mai, c'est le 14 juillet russe. Mm-hmm. Hein. Et de ce point de vue-là, bah, on a assisté au 14 juillet russe, hein, un défilé militaire comme il y en a eu tous les ans, qui n'est pas plus impressionnant, pas plus de démonstration de force. Ça fait un moment que... On disait que ce 9 mai, c'était surtout dans la bouche des Occidentaux. Hein. C'est nous qui avons commencé à faire monter la pression en disant « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer le 9 mai ?» C'est CNN qui, soi-disant, avait des informations des Américains, qui a commencé à dire « Il va décréter la mobilisation générale le 9 mai. » Vladimir Poutine est quelqu'un qui n'aime pas se faire dicter son calendrier de l'extérieur, qui ne va pas se laisser imposer une date. C'est-à-dire ce qu'a dit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques jours, en disant « Nous, le 9 mai, c'est la
fête nationale. »
C'est la fête nationale, et d'ailleurs qui continue encore en ce moment, hein, sur la place rouge, il y a ce qu'on appelle... Depuis, oui, c'est ça, le régiment immortel. Hein. Donc tous les Russes descendent avec
les portraits,
les photos, les souvenirs
de ceux qui sont morts pendant la
guerre.
Voilà,
de ceux qui sont morts pendant la guerre pour faire ce régiment immortel. Donc c'est quand même un moment aussi patriotique qui a une résonance évidemment unique cette année compte tenu de ce qui se passe, mais sur lequel Vladimir Poutine a plutôt joué, je suis tout à fait d'accord avec Vladimir Fedorovski, la désescalade dans son discours.
On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant, on partira à Moscou, rejoindre notre correspondant pour savoir comment il interprète lui le discours de Vladimir Poutine, et on se retrouve avec nos invités. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
L'Ukraine va-t-elle bientôt faire partie de l'Union européenne ? C'est le mois prochain que Bruxelles doit rendre son avis concernant l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat. Début mars, la Commission européenne avait lancé une procédure d'examen des demandes d'adhésion déposées par l'Ukraine à la suite de son invasion par la Russie. Dans le Val-de-Marne, l'homme soupçonné d'avoir tenté de tuer sa compagne a été hospitalisé en raison de son état psychologique. Âgé d'une quarantaine d'années, il aurait poignardé la victime à plusieurs reprises en lui donnant notamment des coups de couteau dans les yeux. La victime, dont le pronostic vital était toujours engagé hier. Est-ce la fin de la vignette verte sur le pare-brise ? La Fédération des compagnies d'assurance veut supprimer le macaron qui colle à la peau des voitures des Français depuis près de 40 ans. Des discussions avec le gouvernement sont menées actuellement pour que le fichier des véhicules assurés soit désormais utilisé lors des contrôles.
On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Tout de suite, direction Moscou. Nous attend notre correspondant Julian Colling. Bonsoir à vous. Comment est-ce que vous, depuis Moscou, vous avez interprété le discours de Vladimir Poutine qui a dit notamment qu'il faut tout faire pour éviter l'horreur d'une guerre globale ?
Mais ça peut être curieux à dire, mais c'était presque un discours entre guillemets rassurant, puisque on le sait, les jours précédents, différentes sources d'informations, notamment du renseignement occidentaux, craignaient que Vladimir Poutine choisisse l'escalade aujourd'hui et décide en fait de déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, ce qui aurait eu bien sûr des conséquences dramatiques également pour les Russes, la société russe, puisque ça aurait voulu dire une mobilisation générale des réservistes par exemple, et pourquoi pas une conscription également de jeunes hommes russes, soldats en plus, pour être envoyés au front. Donc ce n'est pas le cas évidemment aujourd'hui. Un discours finalement assez classique de la part de Vladimir Poutine, où il a simplement rappelé l'importance de la mémoire des héros de 1945, en faisant un parallèle assez curieux avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, sans vraiment nommer les choses, et en expliquant tout de même une fois de plus que les responsables de la situation chaotique, c'était une fois de plus l'OTAN, les États-Unis ou en tout cas le bloc occidental, et que ce n'était pas la faute de la Russie, la situation actuelle, mais qu'elle avait dû réagir par rapport aux provocations, encore une fois, de l'OTAN surtout. Et donc finalement, un discours finalement assez classique aujourd'hui, répété par Vladimir Poutine, et un discours assez court et assez succinct, on peut dire. Rien de spécial, donc.
Et en ce moment même, les célébrations du 9 mai se poursuivent, il y a la marche du Régiment des Immortels, c'est bien cela, expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Je me trouve encore actuellement au centre de Moscou, près de la place Pushkin, où effectivement le régiment immortel est passé. Alors c'est une grande marche, une manifestation en fait de tous les Russes qui peuvent venir s'ils veulent manifester en hommage à leurs anciens, en fait, aux ancêtres de ces Russes qui ont pu participer à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, donc à la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie en 45. Et donc les gens défilent avec des pancartes et des photographies de leurs proches, de leurs ancêtres disparus. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort pour les Russes. Chaque année, l'événement donc est suivi par des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, les autorités disent qu'il y avait plus d'un million de personnes dans la rue à Moscou, donc pour ce défilé de la mémoire. Et donc, il faut bien comprendre que c'est deux événements très distincts, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour les Russes, sans forcément soutenir Vladimir Poutine ou les événements en Ukraine. Pour eux, c'est important de célébrer cette parade militaire également, d'aller voir les véhicules militaires, les soldats également, de leur témoigner leur soutien dans la rue et de participer à cette marche de l'histoire et de la mémoire. Mais il faut vraiment séparer ça, encore une fois, du discours de Vladimir Poutine qui était sur un autre registre, on peut dire, aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, Julian Colling. Vladimir Fedorovski, vous êtes avec nous, on voit ces célébrations qui se poursuivent en ce 9 mai. Est-ce que la rupture est consommée avec l'Occident, avec les alliés, l'OTAN, ou est-ce qu'il y a encore, c'est ce que vous redoutiez ces derniers jours, ou est-ce qu'il y a encore une petite marge de dialogue possible ?
Vous savez, je vais répondre comme Gramsci, avec le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence me pousse à vous dire que Poutine a créé la cohésion, a poussé, faire renaître l'OTAN, a renforcé l'OTAN, mais l'OTAN a renforcé Poutine. Je pense qu'on sous-estime la création d'un bloc dans les perspectives militaires et économiques entre les Chinois et les Russes, est beaucoup plus ça. La rupture, il y a des symboles de la rupture. Le symbole, je ne cesse pas de dire, c'est l'interdiction de Dostoïevski par les Italiens dans l'université de Milan. Le symbole, c'est la décision.
Les Russes en ont parlé de ça, beaucoup.
Évidemment. Mais les Russes, pour les Russes, moi j'ai regardé, vous savez, c'est la hausse d'un coup, la hausse dans les sondages de 10% en faveur de Poutine, 80% en faveur de lui. Et c'est pas bidon, c'est la réalité. Et je regardais pourquoi. Et j'étais étonné jusqu'à quel point l'interdiction de Dostoïevski a joué un rôle. Maintenant, vous comprenez la phrase, les phrases des Américains ces derniers jours, qu'on veut déloger Poutine, tout ce qu'on veut, mais ils disent, on veut la défaite. La défaite de la Russie, de l'armée russe ou de la Russie. Évidemment, ça blesse les Russes. L'interdiction, vous savez, les sanctions contre le patriarche, je ne pense pas que c'est pour les Russes, c'est pour les Russes, les spiritualités. Alors, vous comprenez le pessimisme de l'intelligence, maintenant l'optimisme de la volonté. Je pense qu'il y a deux déclarations qu'il faut rajouter à notre analyse. La déclaration très importante pour moi, c'est la déclaration du pape. Et ça, c'est vraiment la déclaration en faveur de la paix, directement. Il s'éloigne des thèses américaines et il fait une déclaration, c'était avant-hier soir, il a fait ça. Très, très important, et je pense qu'il faut... Et puis, je tiens à vous dire, moi, j'ai apprécié énormément les formules du président Macron tout à l'heure dans la conférence de presse.
On va y revenir.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui tranche avec l'ambiance de Vatanguerre des philosophes des Saint-Germain.
Mais Gilles Matré, on n'a pas évoqué énormément ce qu'a dit Vladimir Poutine, mais il y a évidemment une forme de non-escalade, si on peut dire.
En tout cas, il n'a pas rajouté dans l'escalade, qui quand même, l'escalade verbale depuis 15 jours est très forte. Alors, vous savez que du côté russe, on parle souvent d'escalade pour la désescalade. Hein. C'était même une expression qu'avait utilisée Vladimir Poutine en 1999. Les Russes sont très fébriles suite aux livraisons d'armes accélérées, au programme des Occidentaux, sur le terrain sans être... en repli, ils font face à la résistance ukrainienne. Et donc, on a senti qu'il y avait une volonté de mettre des lignes rouges sans les définir, en faisant planer toute une série de menaces, en reparlant de l'arme atomique. Et puis, on voit bien que, depuis quelques jours, il y a plutôt la volonté d'apaiser. Ce n'est pas que ce discours de Poutine aujourd'hui. Il y a d'abord eu, quand on a eu les révélations sur les renseignements américains qui auraient aidé à frapper des généraux russes tout de suite, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a dit « Non, mais ça, c'est pas du tout une cobelligérance, ça n'a pas freiné notre avance. » Donc ça, on l'a senti. Et puis, il y a eu cette résolution votée au Conseil de sécurité par les Russes, qui donnait tout son soutien au secrétaire général pour trouver une solution de paix. Ce n'est pas vraiment une médiation, ce n'était pas exactement ce que souhaitait...
Mais il n'y a pas eu de veto russe.
Voilà, mais il n'y a pas eu de veto russe. Donc on sent depuis quelques jours qu'il y a cette volonté, en tout cas, d'apaiser les choses, et qui correspond au discours aujourd'hui de Vladimir Poutine.
François-Bernard Huyghe.
La médiation, on y viendra, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça sera peut-être le pape, ça sera peut-être Macron, ça sera peut-être Erdogan.
Ou les Israéliens.
Tout est possible.
Il s'est excusé.
Actuellement. Mais il me semble... Alors, faut pas être d'un optimisme. Mais il y a des signes de désescalade, effectivement. Bon, ce discours de Macron sur lequel on reviendra, qui ne veut certainement pas rentrer dans le même processus que Joe Biden, et la France n'a pas les mêmes intérêts que les États-Unis dans cette affaire, à savoir saigner la bête dans une guerre à long terme. Bon, tout ça, ce sont peut-être des éléments qu'il faut... prendre en compte. Alors, il faut voir aussi ce que dira Zelensky. Il a fait un concours de « c'est toi qui es le nazi » par discours interposé avec Poutine. Mais en même temps, il envoie des signaux l'otanisation de l'Ukraine ou sur un accord territorial.
On va juste écouter Emmanuel Macron, puis je vous passe la parole, Vincent Hervouet. Il a rappelé tout à l'heure à Strasbourg, lors de son discours devant le Parlement européen, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Écoutons le président français.
Je pense que nous avons donné deux visages, en tout cas très différents, du 9 mai. Le président Poutine je ne suis jamais dans le commentaire, mais a assumé une posture guerrière. Nous sommes très clairement aux côtés de l'Ukraine, pour aider l'Ukraine, le peuple ukrainien, à tenir, à résister, pour l'aider d'un point de vue humanitaire, pour accueillir aussi les réfugiés. Nous sanctionnons et continuons de sanctionner la Russie pour stopper et contraindre son effort de guerre. Et notre responsabilité est d'obtenir un cessez-le-feu sans qu'il y ait d'extension du conflit sur le reste du sol européen. Mais nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Car notre Europe n'a pas tenu la promesse de l'après-45 en 1914, parce qu'en 1918, nous avions humilié. Voilà. Donc nous, il nous faut avoir cette exigence.
Voilà ce rappel de l'histoire tragique, évidemment, par Emmanuel Macron, Vincent Hervouet, pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs.
C'est très éloquent, sauf qu'il manque un acteur, il manque l'Amérique dans cette démonstration. Ce n'est pas un dialogue entre l'Europe et la Russie, ce sont les États-Unis qui sont les premiers à la manœuvre. Et les États-Unis se sont persuadés, c'est une histoire qui a 40 ans, que le monde irait mieux s'il n'y avait plus Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Ils sont absolument convaincus depuis 40 ans qu'en se débarrassant de Saddam Hussein ou du Shah d'Iran, de Duvalier ou de Marcos, des talibans à Kaboul qui sont revenus, mais ça c'est pas de leur faute, etc. On peut changer ainsi le cours de l'histoire et arranger les choses. En général, ce que ça provoque, c'est l'effondrement du pays, avec l'effondrement du régime, et le pire n'est jamais décevant. Dans le cas précis de l'Ukraine, les Américains disent sur tous les tons qu'ils veulent une victoire. Ils veulent plutôt une défaite de la Russie, c'est-à-dire une victoire de l'Ukraine. Semblant totalement éviter quand même... C'est un vrai déni du réel, parce que la réalité, c'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas y avoir en réalité ni de défaite complète, ni de victoire absolue. Il y aura de toute façon un partage au bout du compte, donc un compromis, donc quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec les parades militaires ou avec la gloire héroïque et le discours emphatique qu'on entend aussi bien à Kiev qu'à Bruxelles. C'est stupéfiant, vous avez écouté un peu le président du Conseil européen qui était à Odessa aujourd'hui, mais qui vient célébrer la journée de l'Europe, il va la célébrer à Odessa en disant « Odessa, c'est le creuset de l'Europe ». Mais il marche sur la tête, c'est un rêve éveillé, ça.
Juste un petit mot sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, Vladimir Fedorovski, pas humilier la Russie,
c'est non
pas
seulement,
reproduire les erreurs du passé.
C'est un discours très équilibré. Et j'étais vraiment un défenseur, vraiment partisan passionné de sa démarche, parce que, comme Ukrainien, il est clair à propos de la solidarité avec l'Ukraine, mais il donne la perspective. Je vous signale que vraiment, les Américains, ils font une faute par rapport à la perspective. Ils poussent la Russie à la création d'un bloc anti-américain avec les Chinois. Si c'est l'intérêt des Chinois, ils ont obtenu tout. Ils ont obtenu déjà les marchés de gaz, ils ont obtenu la vassalisation de l'Europe, la renaissance de l'OTAN. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils veulent... Mais vous, la guerre, ça, on peut aller à l'infini. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas 50 000 morts, comme je prédis à Donbass, mais il y aura 150 000 morts jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, essayons de voir très clair. Et je vous dis, s'il continue avec, utilisons le mot d'achèvement, avec cette inspiration, il a dit quand il est bien inspiré. Cette fois-ci, il était vraiment bien inspiré. Il recevra le prix Nobel de la paix à l'arrivée.
Bon, on verra si vos prédictions se réalisent. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité.
En Pologne, l'ambassadeur russe a été arrosé d'une substance rouge ressemblant à du sang. Alors qu'il participait à la cérémonie à Varsovie marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le diplomate a été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. Sergueï Andreïev devait déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Varsovie où reposent les soldats soviétiques morts durant la guerre. En visite surprise en Ukraine, Charles Michel a été forcé de s'abriter à cause de frappes de missiles. Le président du Conseil européen était à Odessa pour célébrer la journée de l'Europe et par soutien avec le peuple ukrainien. Vous n'êtes pas seul, l'Union européenne est à votre côté, à vos côtés, a notamment déclaré Charles Michel lors d'une rencontre avec le Premier ministre ukrainien. Enfin, François Fillon reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris cet après-midi. L'ancien Premier ministre a été condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme. Une amende de 375 000 euros a également été assortie à cette condamnation, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. François Fillon, qui se pourvoit en cassation, ont annoncé ses avocats il y a quelques heures.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur cette image forte, cet ambassadeur russe en Pologne qui a été couvert de faux sang par des activistes ukrainiens qui disent non à la guerre. On décrypte cela dans un instant dans Punchline, à tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Vladimir Fedorovski, Vincent Herouet, Gilles Mintré et François-Bernard Huyck, directeur de recherche à l'IRIS. On va décrypter une image choc et je vais la raconter à nos auditeurs. C'est l'ambassadeur russe en Pologne. Il se trouve à Varsovie. Il est là pour cette journée du 9 mai. Il dépose une gerbe de fleurs, j'imagine, devant un monument aux morts et on le voit se faire asperger d'un liquide rouge qui ressemble beaucoup à du sang. Évidemment, ce n'est pas du sang. Il est entouré d'activistes ukrainiens. Je ne sais pas si on va entendre un tout petit peu ce que crient ceux qui sont autour de lui. Il reste assez flegmatique. Ils disent, voilà, meurtrier, fasciste. Et on le voit rester stoïque alors qu'il se fait asperger de sang, symbole de cette Russie couverte du sang ukrainien. Vladimir Fedorovski, c'est une image forte.
C'est une image très forte, mais vraiment qui a marqué les médias. Pour équilibrer, vous auriez pu montrer ce qui se passe à Belgrade. Mais vraiment, c'est une image qui bouleverse évidemment le monde aujourd'hui.
François-Bernard Huyck.
Alors, ceci dit, c'est balancer du sang de poulet, c'est une technique d'activiste qui date des années 60. Hein. Je veux dire, c'est pas une innovation.
Ils n'ont rien inventé, mais
l'image... Mais on est quand même dans cette situation, au côté russe et côté ukrainien, on est en train de se traiter mutuellement de nazis et d'anciens.
Voilà. De l'escalade verbale.
Cette image aura des conséquences.
Je sais pas, c'est de l'hooliganisme politique ou diplomatique. C'est-à-dire qu'autrefois, les ambassadeurs représentaient un État, leur personne n'était jouissait d'une forme d'impunité, on les laissait s'exprimer. Je ne sais pas où était la police, je ne vais pas faire l'enquête. C'est étrange, il est un pas vide. Mm-hmm. Et c'est un vrai diplomate, c'est-à-dire qu'il ne trahit rien de son émotion. Mm-hmm.
On le voit en Birlandais, le service d'ordre après, en revanche, parce que
qui a été parfait, là, légèrement débordé. Ah, oui. C'est pas la gloire quand même de ceux qui ont fait ça, c'est répugnant. Mm-hmm. Et... en l'occurrence, l'ambassadeur de Russie, là, n'est pas le représentant de Vladimir Poutine. Il est devant le monument aux morts, une guerre qui a fait... Il y a eu 27 millions de morts côté russe. Alors, la Pologne a été dépecée. L'historiographie officielle russe nie totalement Ekatine et les massacres de masse. OK, mais bon. Là, ce sont les Ukrainiens qui viennent lui faire la peau, qui viennent l'humilier... Et c'est pas vraiment glorieux, c'est même assez moche, non ? Ça fait un peu honte, tout ça.
Non, moi je trouve que ça montre le déni dans lequel s'est enfermée la Russie dans sa... En fait, la Russie ne voit plus le monde tel qu'il est. Elle continue à penser que c'est qu'elle mène une guerre, enfin une opération spéciale en Ukraine, qu'elle règle quelque chose dans son étranger proche et qu'elle peut venir comme ça, le 9 mai, comme si rien n'était, en Pologne, l'ambassadeur vient comme s'il était invité comme n'importe qui et il s'étonne que des gens trouvent ça inacceptable. Je pense que ça en dit long. Et c'est là aussi, il va falloir faire ce chemin pour que les Russes arrivent à pouvoir négocier la sortie de cette guerre. Il va falloir qu'ils comprennent qu'on n'est plus dans le même monde.
Je pense que le diplomate que vous avez été, quand la France, par exemple, reprenait ses essais nucléaires et que toutes les ambassades dans le monde entier étaient assaillies par des anti-nucléaires qui trouvaient ça scandaleux, la politique que menait Jacques Chirac à l'époque, à l'époque où vous étiez vous-même dans les ambassades de France, vous n'auriez pas apprécié d'être couvert de farine, d'œufs et de goudron.
Il y a une différence
qui n'est pas de degré, qui est de nature complète entre l'action que mène, enfin la guerre, la barbarie que mène la Russie en Ukraine et les essais nucléaires. Ça n'a rien à voir. Okay. Et que justement, l'ambassadeur russe pense que dans le fond, c'est pareil, dans tous les cas, c'est la Russie, il n'est pas l'émissaire de Vladimir Poutine. Je pense que c'est un aveuglement qui montre.
C'est un monument au mort.
Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de dire les Russes ne voient pas
le monde. Quand vous parlez des Russes, vous parlez de l'élite russe.
Bien sûr.
Parce que le peuple russe, Vladimir Fedorovski, il croit à ce que dit Poutine. Il n'est pas informé, il ne connaît pas la réalité de la situation.
Non, c'est plus compliqué que ça. Vous comprenez, il y avait une évolution de l'opinion publique russe depuis un bout de temps. Je l'ai remarqué. Ça remonte, si vous voulez, le fond de ma pensée, à la fin du communisme, quand il y a un très grand dissident que j'ai connu russe, qui m'a dit, à l'époque, l'Occident visait le communisme, mais il a tiré sur la Russie. Quand il y avait 5% des Russes qui ont s'emparé des richesses, que c'était associé avec les oligarques qui sont la couche de la population la plus haïe de la Russie, et les Russes, ils ont conclu que à l'époque qu'il y a une sorte, ils visent dans une grande tradition de châteaux assiégés, de citadelles assiégées, que le complot est bien là. Et je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça que j'ai trouvé les propos du président Macron vraiment habiles, quand il dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Vous savez, je suis ukrainien, vous comprenez. Je partage complètement l'émotion de l'Ukrainien et l'horreur. Vous savez, tout ce que je déteste, c'est évidemment la guerre. Mais je crois bien qu'il y a deux discours tout de suite en Pologne. Il y a un discours pour équilibrer du ministre des Affaires étrangères polonais qui a tout de suite parlé convaincant. Et il y a un ministre de l'Intérieur, mais vous étiez diplomate quand même, autrefois, ministre de l'Intérieur, qui a dit, c'est compréhensible, il a tenu deux discours. Vous voyez, même en Pologne, il y avait deux discours comme à l'Assemblée.
François-Bernard Huyghe.
Non, simplement sur l'opinion russe, toujours se méfier de la phrase, c'est parce qu'il y a de la censure, et si le peuple savait, il se révolterait contre ses dirigeants. Je n'en crois rien, je crois des facteurs culturels beaucoup plus importants, et c'est une idée un peu niaise qu'avec un peu de communication, Enfer serait le méchant
une idée
dictateur.
Occidentale.
C'est une idée typiquement occidentale, dont je peux vous assurer qu'elle n'est pas partagée par les Chinois, par les Maghrébins, par les Africains, etc.
Évidemment, et vous savez, le danger, c'est en soi, pendant la guerre, évidemment, on tape sur tout le monde, il y a beaucoup de désinformation, c'est compréhensible. Le danger, je parle trop souvent avec les Américains, parce que je suis seul accepté quand même par les médias américains comme ukrainiens, et après on parle dans les émissions. Ils disent, ce sera très simple, les Russes, ils vont se révolter tout de suite, ils vont virer Poutine. Rien de tel. Vous comprenez, on vit dans les fantasmes, et comme on vit un moment très dangereux, un grand moment vraiment de danger, il faut être très précis, comme modestement, si vous me permettez, qu'on fait toujours dans vos émissions.
Merci beaucoup. Gilles Maintré,
Sur le discours d'Emmanuel Macron, je vais revenir. Absolument. Parce que moi, il m'a semblé au contraire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron avait manqué un rendez-vous avec l'histoire.
Alors, il a proposé. Il dit l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va prendre des années, voire des décennies. Il dit, soyons réalistes, ça va prendre un temps infini. Donc, il propose une espèce de formule médiane, une communauté politique européenne qui permettrait d'accueillir l'Ukraine un peu plus vite. Mais évidemment, ce ne sera pas une adhésion à l'Union européenne.
Voilà. Et évidemment, on voit bien que à ce moment où la guerre en Ukraine impose de trouver à un moment une sortie de cette guerre, qu'il va falloir trouver, au-delà de simplement des garanties de sécurité pour les Ukrainiens, une perspective qui permette au peuple ukrainien, compte tenu des souffrances qu'il a endurées, compte tenu de comment le pays a été ravagé, qui donne une forme d'espoir. Il faut qu'il y ait une trajectoire d'espoir pour les Ukrainiens. Or, cette trajectoire d'espoir, c'était pas de rentrer dans l'OTAN. De toute façon, c'est évidemment un peu, c'est de faire partie des choses sur lesquelles Vladimir Zelensky a déjà parlé. C'est l'Europe. Vous avez aujourd'hui 91% des Ukrainiens qui désirent entrer dans l'Union européenne.
Et ça leur irait pas, cette communauté politique européenne?
Leur dire que pendant des décennies, c'est pas des années, des décennies, vous allez faire partie d'un club de seconde zone. Avec, et ce n'a rien contre ni les Albanais, ni les Macédoniens, ni les Kosovars, Mais évidemment, on ne parle pas de la même chose. Et c'est déjà la réponse qui avait été faite au sommet de Versailles. Vous vous souvenez, tous les chefs d'État étaient venus. On avait dit à la Commission européenne, bon ben rendez-nous un rapport, on va avoir la réponse bientôt. Mais bon, ça va prendre beaucoup de temps et il faudra examiner votre rapport au même titre que la Moldavie, la Géorgie et puis tous les autres. En 1993, après la chute du mur, on avait déjà eu on était déjà face au même problème. On avait tous les pays d'Europe centrale et orientale qui frappaient à la porte de l'Europe. Et c'était historique de la même façon. Et il y avait le même écart de niveau de vie, d'état de droit, etc. Et ben, en 1993, le Conseil européen avait été capable de dire, je cite, hein, les pays d'Europe centrale et orientale pourront devenir membres de l'Union européenne s'ils le souhaitent. Objectif d'adhésion. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de dire à l'Ukraine, vous pourrez un jour être européenne si vous le souhaitez. Bien sûr, ça prendra des décennies pour qu'on fasse le processus, mais dès maintenant, on envoie ce signal.
18h45 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Michaël Dorian.
Selon Vladimir Poutine, l'armée russe combat en Ukraine pour se défendre face à la menace inacceptable que représente son voisin, soutenu par l'Occident. Depuis la place Rouge et à l'occasion du défilé du 9 mai, le président russe a également souligné que tout devait être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre. Fin de cavale pour l'évadé du zoo Dupy au sud de Valence. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN. Placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure. Et puis Paris a rendu son dernier adieu à sa reine de la nuit, Régine. Personnalité et anonyme se sont réunis en fin de matinée pour les obsèques de la chanteuse et comédienne décédée le 1er mai dernier à l'âge de 92 ans. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents lors de la cérémonie.
On se retrouve dans Punchline, Vladimir Fedorovski. Est-ce que l'Ukraine pourrait se contenter d'une forme de communauté politique européenne et pas d'une adhésion à l'Union européenne?
Je rejoins en partie les préoccupations que vous avez exprimées, mais juste, vous savez, Macron, il était réaliste. Et le réalisme dans la politique, ça ne suffit pas. Il faut donner la perspective. Et comme Ukrainien, je pense qu'il faut maintenant, pour aller vers la sortie par le haut, proposer un plan Marshall. Immédiatement, proposer un plan Marshall de la reconstruction. Il ne faut pas laisser ça aux Américains. L'Europe doit construire là-bas, reconstruire là-bas une sorte de label, l'exemple d'un pays qui réussit. Ce sera bien pour l'Ukraine, et je vous signale, ce sera bien pour la Russie aussi, la création de cet État, qui sait. Peut-être mon rêve que l'Ukraine soit un trait d'union entre la Russie et l'Occident se réalisera grâce à ce plan Marshall. Je rejoins vos préoccupations.
Monsieur Hervouette, sur cette adhésion à l'Union européenne.
Vous savez, la communauté politique européenne dont parle Emmanuel Macron est assez évanescente. C'est un truc, un machin. C'est le produit de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Ça arrive en même temps, qui propose plus de 300 propositions qui toutes vont dans le même sens, c'est-à-dire plus d'intégration, et évidemment, on ne pouvait pas attendre autre chose. C'est proposé par la France qui parle fort et qu'on écoute, qui parle de plus en plus fort, qui veut de plus en plus d'intégration et qu'on écoute de moins en moins ailleurs en Europe, parce que le vrai problème de l'Europe, c'est que ce n'est pas nous tout seuls qui la faisons. Et donc, j'ai beaucoup de mal à croire que qui que ce soit nous suive là-dedans. Si ça doit être juste une espèce de salle d'attente éternelle, une sorte de purgatoire éternel où on mettra la Bosnie, le Kosovo, l'Albanie, tous les pays dont on veut pas parce qu'ils sont extrêmement difficiles et coûteux à intégrer. Oui, pourquoi pas, mais il y a un vrai problème, si vous voulez. Le problème fondamental, c'est que vous ne faites pas rentrer un pays qui est en guerre, même si cette guerre est gelée. Vous pouvez pas, on l'a fait une fois avec Chypre, dont le nord est occupé par les Turcs. Et donc, ça a gelé définitivement La question, il n'y a plus d'évolution du tout du problème turc depuis ce moment-là, du problème chypriote. Mmh. On ne refera pas deux fois, l'Europe ne refera pas deux fois cette erreur.
François Bernard Huyghe.
Non, juste une remarque, c'est que c'est cette demi-adhésion, ça va faire quoi? Un balcon des frustrés, quoi, qui se verront accueillis d'excellentes paroles, peut-être de quelques subventions. Mais c'est quoi l'UE si vous n'avez pas de pouvoir, si vous n'êtes pas sur un modèle économique, quelles normes on applique? Donc je suis un petit peu sceptique sur ce système des... Sauf c'est vraiment le balcon des frustrés, quoi. On leur montrera ce qu'ils auront dans quelques années. Oui.
Sauf qu'ils sont un peu ils sont aussi un petit peu russes, quand même, un petit peu slaves, les Ukrainiens. Ça n'a échappé à personne qu'on parlait des 27 millions de morts tout à l'heure pendant la Grande Guerre patriotique. Il y en a 7 ou 8 millions, je parle sous l'autorité de... qui sont ukrainiens. Donc quand j'entends le président du Conseil européen dire que Odessa le creuset de la civilisation européenne, je me dis, mais on parle de quoi? C'est quand même, c'était la petite Russie, quand même. Et donc, l'appartenance de l'Ukraine à ce monde-là, elle est absolument évidente. Donc, c'est un état du limès, un état de la frontière, et c'est compliqué de les intégrer tels quels, évidemment. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est l'OTAN. Ce qu'ils veulent, c'est l'Amérique. Avant de vouloir l'Europe.
Vincent, tu as raison, on ne pourra pas intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. De toute façon, déjà, si le conflit est gelé, si on est en situation de conflit qui dure, et puis par ailleurs, il y a un acquis communautaire, il y a un état de droit, il y a des critères. Donc ça va prendre des décennies. Mais ce qu'il aurait fallu dire dès maintenant, c'est vous entrerez maintenant. Ça va prendre tout le temps qu'on converge. Plutôt que leur dire, vous êtes maintenant dans ce machin de seconde division, dans lequel, Emmanuel Macron a tenu à préciser, le fait de faire partie du machin ne vous donne aucune assurance que vous serez un jour dans l'Union européenne. Vous serez juste, comme il a dit, membre de cœur. Il y a d'autres choses qui me gênent dans ce projet. C'est qu'il a été inspiré, comme vous savez, par Enrico Letta, qui a donné un article très éclairant et une interview très éclairante aujourd'hui dans Le Monde. Emmanuel Macron a dit...
Ancien Premier ministre italien.
Emmanuel Macron a dit, il y a aussi les exclus de l'Union européenne qui pourraient revenir dans le machin. Donc on va proposer ça aux Anglais, en leur disant, ben vous aussi, vous pouvez côtoyer les Ukrainiens, les Albanais, les Kosovars. Bon. Et puis par ailleurs, Enrico Letta a été très clair aujourd'hui, il a dit, ça reprend un peu l'idée de Mitterrand, d'une grande confédération européenne, sauf la Russie. Et il a dit, c'est même une idée contre la Russie. Je cite Enrico Letta. Or, Emmanuel Macron a eu des mots très justes aujourd'hui en disant il ne faut pas humilier les Russes. Créer ce machin qui est précisément dirigé contre la Russie, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée.
J'imagine que le nom machin a un sens historique votre bouche.
Juste un élément pour notre réflexion. Sur 6 points de négociation qui ont été menés, notamment par les Israéliens et les Turcs, il y a un point que les Russes ont accepté volontiers. C'est la perspective de l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, vous comprenez, il y a cette perspective. La formule, peut-être, ce n'est pas la meilleure, mais en soi, ça ne change rien dans nos discussions. Nous sommes tous d'accord sur le fond. Simplement, peut-être, un peu plus de volonté pour, quand il y a cette solidarité avec le peuple ukrainien, quand même, il fallait donner peut-être un peu plus d'éclat.
Pour le moment, quand même dans le symbolique, et ça rappellera beaucoup le geste de Mme von der Leyen se précipitant avec son formulaire d'adhésion à l'Union européenne. On est dans le signe.
Est-ce que la négociation a à nouveau sa place à partir de maintenant, Vladimir Fedorovski? Est-ce que les pourparlers peuvent reprendre ou pas?
J'ai souhaité tellement, parce que vous comprenez, la guerre mondiale, il faut éviter. Je ne suis pas certain, mais quand même, il vaut mieux éviter. Les sanctions, je suis très sceptique, ça va donner un résultat un peu plus tard. Et en plus, c'est un cadeau. Les Russes, ils me disent, c'est un cadeau de Dieu. On va se débarrasser de notre malédiction de dépendance du pétrole et on va changer le système oligarchique. Alors, vous comprenez, pour les sanctions, soyons prudents, disons. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le volontarisme en faveur de la désescalade. Aujourd'hui, le président Macron, il a remis ça en table. Il y a un petit signe d'espoir. On n'est pas naïf, mais un petit signe d'espoir dans les mots de Poutine. Qu'est-ce qui sait? Et puis, franchement, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est ça. Sur Les Turcs, qui sont très volontaires, les seuls qui ont été vraiment volontaires dans l'affaire, ils ont obtenu l'accord sur 6 points. Mm-hmm. Alors, vous comprenez, peut-être, mais il y a un autre problème qui va surgir maintenant, c'est le problème de problème de Mariupol, mm-hmm. de ce noyau
cette
dur.
Cité dévastée, avec les militants ukrainiens,
avec
les militaires, les gens
radicaux ukrainiens, et ça peut poser un problème pour les négociateurs.
Leur martyr serait un problème.
Martyr, ça compliquera la vie sur le plan intérieur au président Zelensky, oui. Et pour lui, ça peut être un point de blocage. D'ailleurs, il l'a dit que finalement, le martyr des gens là-bas signifiera la fin de négociations, vous comprenez. Mmh. C'est ça oui. qui me perturbe.
Vincent Labouette.
Non, moi, il y a une question, c'est que on sait 2-3 choses sur la façon dont ça se passe à l'intérieur. Ceux qui sont sortis ont raconté
de cette
des
usine,
épouses
cette assyrie.
Auxquelles les combattants ont téléphoné pour ou envoyé des SMS pour dire adieu. C'est vraiment une espèce de scène dantesque avec ces gens se préparent vraiment à mourir. Ils n'ont plus que de l'eau et des munitions. Et ils sont décidés à ne pas se rendre. Il n'y aura pas de reddition. D'ailleurs, ils pensent que, de toute façon, s'ils se rendaient, ils n'auraient pas la vie sauve. Moi, je veux bien qu'on parle de dialogue, de recherche d'un compromis, de négociation un jour, peut-être demain. Mais c'est là, il y a une espèce de situation d'urgence absolue. Et peut-être qu'il faudrait trouver une porte de sortie, enfin, à ce dernier carré héroïque de combattants qui ont voulu tenir le plus longtemps possible et contenu jusqu'au 9 mai. Ce serait vraiment une urgence de se mobiliser pour obtenir ça, pour les arracher au néant.
C'est un problème médiéval. Hein. Ce sont les derniers défenseurs de la forteresse. Alors, est-ce qu'on fait ça en se faisant des grands coups de chapeau et en leur permettant de sortir? Ça ne va pas se produire. Est-ce que ça se termine par un massacre qui va créer des martyrs symboliques? Je n'en sais rien, mais nous sommes confrontés à un problème qu'on connaît depuis le XIIe siècle.
Avec des répercussions diplomatiques quand même majeures.
Avec les télévisions du monde entier.
Un tout petit dernier mot. Un élément de diplomatie là, puisqu'on sait bien qu'il n'y aura pas de solution militaire pour sortir les régiments d'Azovstal. Et les Ukrainiens eux-mêmes avaient proposé de discuter sur cet embryon. C'est là qu'Antonio Guterres avait fait à Moscou.
Allez, Vladimir Fiodorovski, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant et François-Bernard Huyghe, La bataille des mots aux éditions VA Éditions. Merci à tous les quatre d'être venus dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et c'est Christine Kelly qui vous accueille sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur notre antenne.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, éditorialiste. Bonsoir. Voilà. François Pupponi, député territoire des progrès du Val d'Oise. Bonsoir à
bonsoir.
Vous. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Bruno Jeudy de Paris Match.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Bruno. On va commencer peut-être par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même à Berlin. Il rencontre son homologue, le chancelier Olaf Scholz. Ils sont parlé de l'Europe, de l'Ukraine. On va en dire un mot dans un instant. Mais d'abord, les journalistes français l'ont ramené aux préoccupations nationales, alors que lui ne voulait parler que d'international. Et ils lui ont demandé, écoutez bien, est-ce qu'il savait qui serait son futur Premier ministre? Écoutez la réponse du président Macron.
Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure, et je me félicite qu'en effet, après le G7 et le sommet de l'OTAN que nous tiendrons à Madrid, nous puissions tenir un conseil des ministres franco-allemands dans la première quinzaine de juillet, dans le premier jour de juillet, qui sera une étape importante.
Voilà pour Emmanuel Macron, Alexandre Chauveau. Donc, on est soulagé, il sait qui sera son Premier ministre.
Oui, bonne nouvelle, nous, on ne sait toujours pas. Mais
voilà, nous, on ne sait pas.
On sait qu'Emmanuel Macron a l'habitude de réserver des surprises dans la nomination de ses premiers ministres. On avait un peu le portrait robot, une femme plutôt de gauche, plutôt réformatrice, capable de mener la réforme des retraites à 65 ans. Il y a plusieurs noms qui ont circulé. Dernièrement, effectivement, on a entendu celui de Marisol Touraine.
Qui était présente à l'investiture. Hein.
Exactement, la séquence a été scrutée.
En jaune, elle avait le maillot jaune.
Alors attends, laissez finir Alexandre.
La séquence a été scrutée par toutes les caméras. Tout le monde essaye de déceler tous les indices possibles pour tenter de découvrir qui sera le nom de du Premier ministre. Mais
Marisol Touraine.
Est-ce que l'impétrant ou l'impétrante, elle ou lui, le sait?
Jean-Claude Dassé. Ah ben ça, ne me posez pas la question. Bruno Jeudy.
En 2017, on a su par exemple qu'Edouard Philippe l'a su quelques jours avant. Il avait été reçu, tout ça, un peu secrètement. Donc on a su. On peut imaginer peut-être que l'impétrante ou l'impétrant le sait. On sait aussi que en gros Jean Castex a dit qu'il serait plus là dimanche, mais qu'il était encore là jeudi. Donc entre jeudi et dimanche, on risque d'avoir le nom du Premier ministre. Vous voyez, on avance dans le Cluedo de la politique.
Qu'est-ce que les électeurs vont pas se lasser de ce petit manège?
À la liste des indices qu'avait donné Emmanuel Macron, il faut ajouter aussi qu'il voulait un peu de gauche, un peu écolo, un peu social, donc un peu écolo quand même aussi. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de confrères se sont peut-être emballés sur la...
Sur Marisol Touraine.
D'abord sur Elisabeth Borne,
qui remplit toutes les cases.
Voilà, Elisabeth Borne qui remplissait toutes les cases, mais qui apparaît aussi comme trop neutre. Et du coup, Marisol Touraine, parce que là maintenant, ce qui ressort, c'est qu'apparemment, il chercherait soit un macroniste, soit quelqu'un de gauche, issu de la gauche, pour le début du mandat.
Ce qui Marisol Touraine, elle, a fait
Jean-Claude Dassier
une réforme des retraites.
Un quart de réforme de retraite.
Elle a fait une
un quart de réforme
des retraites.
Elle s'est beaucoup occupée de la santé aussi.
Aussi.
Oui, certes.
Et la réforme Touraine passe très mal auprès du personnel hospitalier, notamment.
C'est passé très moyen.
Mais c'est vrai qu'elle aurait le profil pour être
bien sûr que les impétrants ou impétrantes le savent. Mais là, il y a toute la préparation pour le gouvernement aussi. Il faut canériser tout le monde.
Il faut regarder si les impôts...
Les impôts, pas les impôts...
Derrière, vous n'avez pas le gouvernement tout de suite, François.
Non, mais tout se prépare.
Il va nous faire mariner encore 3-4 jours derrière, je pense.
Oui, 3-4 jours, mais dire d'ici la semaine prochaine, on aura. Mais là, ils sont en train de vérifier les dossiers des uns et des autres. Si
non, mais quand il dit qu'il veut faire ça dans le bon ordre, je pense que il a eu raison d'abord de régler la question des législatives. Le dispositif politique pour les législatives était important pour lui. Il fallait qu'il règle cette mayonnaise compliquée dans son immense paquebot macroniste, avec les marcheurs, maintenant c'est les Renaissances, les partisans de François Bayrou, et c'est jamais simple avec François Bayrou. Et puis il y a aussi un peu d'aile gauche et d'aile droite. Alors on a vu quelques protégés Nicolas Sarkozy épargné, quelques anciens socialistes épargnés. C'est assez long, en fait. Et comme Emmanuel Macron fait tout lui-même, circonscription par circonscription, ça a mis pratiquement 2 semaines.
Il reste une dizaine de circonscriptions qui ne sont pas encore affectées. Et puis demain, il y a un grand séminaire.
Mais il y en a qui ne seront pas affectés, parce qu'il y en a où ils ne vont pas mettre de candidat face au candidat LR ou au candidat socialiste.
Mais là, il y en a qui doivent être affectés, mais pour le coup, il y a quelques frictions sur les candidatures. C'est vrai, par exemple, sur la 9e des Français de l'étranger, en particulier sur le Maghreb.
C'est là qu'il devait y avoir Zineb Belrhazoui, c'est
voilà,
ça.
A priori, qui ne sera pas investi. Donc, on cherche. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire le dernier sprint. Il y a
Vous avez des noms, François. Comment ? Vous avez des noms, François ?
Oui, il y a quelques-uns qui appellent partout. Donc, on sait à peu près qui fait le sprint. Et puis, demain, il y a un grand séminaire des candidats.
Emmanuel Macron y participera. Emmanuel Macron devrait y passer.
Voilà. Et donc, il y aura une grande journée où il y aura les kits de campagne, etc. Donc, les choses se mettent en place. Et dans la foulée, il y aura effectivement la première ministre d'ici fin de la semaine. Puis le gouvernement au début de la semaine prochaine.
Qu'est-ce qui s'était dit entre Marisol Touraine et le président lors de l'investiture? C'était maintenant que tu as été réélu, tu as tous les pouvoirs pour avancer. C'est ce qu'elle lui avait dit, c'est ça, Jean-Claude?
J'ai vu que l'entretien était chaleureux. Et un grand sourire de Marisol Touraine, donc il y a peut-être là l'esquisse de quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que ces législatives, au fond, vont se résumer pour l'essentiel à droite contre gauche? Ou c'est une erreur d'analyse?
Là, vous mettez Macron droite.
À droite.
Oui, j'ai jamais pensé qu'il était de gauche. Une bonne partie de la gauche.
Il y a beaucoup de députés marcheurs réélus en 2017 qui sont plutôt issus
à gauche, les choses sont claires.
Du centre-gauche.
Ils sont même très à gauche et c'est clair. Et puis disons que en face il y a un grand bloc.
Je souscris pas à votre analyse parce que je pense qu'il y aura quand même dans nombreuses circonscriptions les représentants du Rassemblement national qui seront au second tour. Je pense que vous les excluez un peu vite. Il y aura sans doute sur la centaine de LR sortants, il y en aura sans doute beaucoup d'éliminés au premier tour, et il en restera un peu au second tour, mais il y aura quand même beaucoup de Rassemblement National au second tour. Il n'y aura pas que des matchs insoumis, Renaissance.
Hein. C'est ça. Bon, bien sûr. C'est pas insoumis, c'est NUPS.
Renaissance. Il n'y aura pas que ça.
Oui, c'est ça.
Oui, et avec une vraie problématique également, c'est que toute la campagne va être justement pour démontrer comment Mélenchon est en train de faire un grand coup de bluff.
Oui, ça.
La campagne des présidentielles a surtout été axée contre Marine Le Pen. Là, la campagne législative, ça sera contre Mélenchon, parce que quand il dit par exemple Mélenchon Premier ministre, enfin c'est.
Et en ne se présentant pas aux législatives.
En se présentant pas aux législatives. C'est merveilleux. Mais on ne voit pas comment Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Seul.
Ça veut dire 290 députés.
Voilà.
Seul, 280.
Et donc après, il faut aller s'associer avec les Républicains ou avec le Rassemblement national. Ce qui est bien sûr pas pensable.
Donc Nicolas Sarkozy a quand même partiellement échoué dans sa manœuvre.
Ne grillez pas toutes les cartouches. On va d'abord la petite pause. Et puis on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. Tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Jean-Claude Dacier, François Pupponi, Alexandre Chauveau et Bruno Jeudy de Paris Match. Jean-Claude, vous avez amorcé l'inventaire que la droite devrait faire à propos de Nicolas Sarkozy. Les militants et les élus lui en veulent de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse et d'avoir ouvertement soutenu Emmanuel Macron.
Moi, j'ai pensé, durant ces longs jours, qu'il apporterait forcément son soutien à Pécresse. Il ne l'a pas fait. Alors, quand on voit les résultats de Valérie Pécresse, on peut éventuellement comprendre, mais je comprends aussi que dans la famille, on ait guère apprécié sa posture. Elle pourrait être, je ne dis pas oubliée, mais quelque peu effacée s'il réussissait à convaincre un certain nombre de députés, d'hommes politiques importants de la République, PR, à venir rallier Macron. Mais je ne vois pas venir grand-chose non plus de ce côté-là.
Non, bah non.
Là, donc, je ne sais pas ce qu'il... Bon.
Là, pour le coup, on a à peu près tous les investis. Enfin, on voit 3-4 députés LR qui se sont fait investir par Renaissance. Ouais. Peut-être 3 ou 4 qui ne vont pas avoir de candidat de macroniste face à eux, mais ça n'ira pas plus loin. On est loin de la liste de 20 à 30 que Nicolas Sarkozy avait promis, et que finalement il n'a pas été capable de fournir à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'en plus, tout ça était couru d'avance. Emmanuel Macron, il veut bien faire un deal avec Sarko, mais il n'en a rien à foutre des mecs qu'il peut apporter. Rien à faire, pardon. Merci. Donc je crois que c'est assez réglé. C'est un peu triste pour Nicolas Sarkozy, qui aura perdu sur les deux tableaux. À la fois, il n'aura pas soutenu sa famille et il lui en veut beaucoup.
Et les élus lui en veulent beaucoup.
Il y a eu l'épisode sur le chèque
qu'elle
lui a renvoyé. Ça, évidemment, ça a ravivé les plaies. Tout ça, c'est un peu un gâchis.
Moi, j'aurais parié à Chemise qu'il la soutiendrait, serait-ce que par un tweet rapide.
Vous aimez bien les paris hasardeux.
Il y a quand même.
Alexandre Chauveau,
les élus lui en veulent beaucoup. On a vu Aurélien Pradier dans Le Point qui appelait à une franche rupture avec le sarkozysme. C'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont contre cette coalition, cette alliance avec le macronisme. On se souvient qu'il a été sifflé par les militants à Porte de Versailles lors le dernier meeting de Valérie Pécresse à Paris. Donc là, les relations avec sa famille politique se sont vraiment distendues.
C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en plus, bon, franchement, Aurélien Pradier et François-Xavier Bellamy qui ont pris la tête de la croisade anti-Sarko. Ce n'est quand même pas non plus un CV à la hauteur de Nicolas Sarkozy. Donc,
personne de la droite.
Non, mais personne de la droite. Mais on voit bien que maintenant, ça va être aussi tous les ministres de Sarko qui vont se retrouver pris dans une... Il va y avoir une espèce d'inventaire assez violent chez les Républicains, mais pour une famille qui est quand même maintenant...
La page est tournée. Elle est tournée à droite comme elle est tournée à gauche. Enfin, la manière dont le Parti Socialiste et Olivier Faure en particulier traitent François Hollande sur le bilan, ils sont tous. Nous, on l'a senti à l'Assemblée avec les jeunes générations comme Pradier et tout ça. Donc, tant qu'il y avait Christian Jacob, Woerth, il se retenait un peu. Maintenant qu'il n'y a plus Woerth qui est parti, il n'y a plus Christian Jacob, qui ne se représente pas, ils vont prendre le pouvoir. Mmh. Et cette génération.
Et tourner la page.
Parce que l'idée, c'est on dégage tout le monde et on repart à zéro.
Sous réserve d'être réélu
Bien entendu, mais ils, ils font ce pari-là de dire...
ceux qui vont revenir, hein, parce que ça va être difficile pour les
Républicains. Ça va être difficile, mais eux, ils font le pari. Voilà. Alors, OPS, alors, la manière dont Olivier Faure a tiré le rideau...
OPS, la désagrégation était allée encore un peu plus loin.
Oui, mais
1,7%, il faut reconnaître que vous ne pouvez plus négocier grand-chose.
Olivier Faure, il était quand même député sous François Hollande, il était secrétaire général du groupe socialiste avant 2017, il a assumé toutes les lois, voté les lois, soutenu... Moi, je me rappelle, dans les réunions de groupe, c'était pas le dernier, il nous expliquait que les frondeurs, c'était une honte et qu'il fallait voter les textes, pour expliquer maintenant que tout ça était une erreur et qu'il fallait ne pas le faire. Bon. Voilà, donc c'est... Mais les pages se tournent pour les deux.
On avait vu
que François Hollande essaye de se raccrocher, mais qu'il
n'y arrive pas.
Les socialistes d'aujourd'hui, ce qu'il en reste, n'en veulent plus.
Est-ce que François Hollande va se présenter aux législatives?
Il fait courir encore le bruit. Faut qu'il se dépêche. Il dit qu'il veut monter un mouvement, qu'il veut reconstruire quelque chose, et qu'il ne s'interdit pas. Faut qu'il aille vite, parce
quand
que...
Quand c'est flou,
c'est voilà. Mais je pense qu'il en a envie.
Je crois qu'il y a aussi un problème générationnel, là, avec la page est
tournée. Oui. Moi, je trouve que c'est encore plus frappant
absolument
qu'à droite. PS qu'à droite, parce qu'on voit bien aussi que les nouveaux maires, ceux qui ont été élus, enfin pour beaucoup en 2020, ont quand même validé l'accord avec des réserves, mais ils valident l'accord. Vous voyez, moi j'ai regardé toute la liste des maires. En fait, à part de la Fosse à Montpellier, la plupart valident l'accord. Donc il y a quand même aussi, on voit une radicalité monter sans doute chez leurs militants. Sinon,
la plupart du temps, ils ont été élus avec avec l'Union de la gauche. Donc ils la vivent localement dans leur municipalité. Donc ils l'ont fait. Et donc, ce qu'ils font localement, ils disent pourquoi pas faire.
Il y a une fracture générationnelle, et puis en plus, il y a aussi la volonté de tourner la page Hollande, je crois, forte. Alors, à droite, c'est une autre affaire, parce que la page Sarkozy, elle est plus ancienne. La désagrégation n'a pas encore atteint celle du PS. Il y a encore 101 sortants. Donc, on va voir combien ils seront là. Mais il y a aussi à reconstruire.
Il y a encore des noms, et on verra. Bon, manifestement, ils vont rester et tenir la maison. Il faudra qu'il se dote d'un leader qui soit présidentiable, à l'évidence, sans trop tarder. On va voir ce qui va se passer.
Vous avez un nom en tête, vous?
Oui, moi, c'est toujours le même.
Laurent Wauquiez.
Wauquiez, il n'y en a pas d'autres, oui.
C'est le David Lisnard qui ressort pas mal aussi.
Je pense que vous avez raison, David Lisnard est un homme de qualité. J'ai lu ses papiers, il dit des choses intéressantes pour la droite. Néanmoins,
Je pense que Jean-Claude, on voit quand même deux, mine de rien, on commence à voir deux fronts, d'un côté, Lisnard, Bellamy, Pradier, qui sont à la tête d'une croisade anti-Sarkozy. Et de l'autre côté, Wauquiez, qui quand même essaie de garder les Sarkozy, genre Rachida, Dati, Brice Hortefeux, et qui lui veut être un peu au-dessus. Donc je pense quand même qu'il y a quand même deux lignes. Et l'autre ligne, elle est quand même poussée par Retailleau, Larcher,
S'ils se séparent et se coupent en deux,
deux, c'est-à-dire que Retailleau, Larcher, à mon avis, poussent un peu
il me semble que c'est pas l'heure de se séparer, si vraiment ils sont pas capables.
Non, ils veulent pas se séparer, mais à un moment, il va y avoir une élection pour trancher ça.
Alors, un petit mot de la gauche, parce que François Pupponi parlait de l'union de la gauche, que certains élus... pratique tous les jours. Il y a déjà du rififi du côté de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, puisque Fabien Roussel, qui en fait partie, a demandé à Jean-Luc Mélenchon de retirer son investiture à Tahabouaf. On va écouter Fabien Roussel.
Je comprends parfaitement et la colère et la candidature de Michel Picard. Et nous avons dit, d'ailleurs, à la France Insoumise, qu'il y avait un problème. Nous continuons de discuter avec eux parce qu'effectivement, je ne comprends pas que l'on puisse, que la France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs qui a été condamné en première instance pour injure raciale. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations. Alors, il a fait appel, mais ça veut dire qu'il pourrait être condamné en deuxième instance et, s'il était élu, devoir remettre son mandat. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la France insoumise de revoir cette candidature.
Voilà pour Fabien Roussel. Je précise qu'il avait traité Tahabouaf Linda Kebab, syndicaliste policière d'arabe de service. François Pupponi.
Sincèrement, il y a Fabien Roussel et puis il y a Olivier Faure qui fait la même chose sur la candidate socialiste dans le 20e arrondissement en disant que c'est pas normal que Madame Simonneau soit candidate contre elle. Ce que je ne comprends pas, c'est que Fabien Roussel et Olivier Faure ont signé l'accord avec la liste des circonscriptions qu'ils ont accepté.
Donc voilà.
Visiblement, en rentrant chez eux, ils ont dû se faire un peu engueuler par les leurs. Par exemple, Lionel Jospin a été soutenir la candidate socialiste dans le 20e. Et donc, là, bah, il faut y rétropédale. Mais l'accord est signé. Les candidats sont investis. Et donc, ils sont en train juste de dire, oui, c'est pas bien, on n'est pas content, mais ils n'avaient qu'à pas signer. Ils n'avaient qu'à dire, tant qu'on n'a pas ces deux noms, on ne signera pas. Et ils ont accepté. Bah, maintenant, ils n'ont plus qu'à pleurer, il ne reste plus que leurs yeux pour pleurer.
C'est incompréhensible, Alexandre Chauveau, cette attitude de Fabien Roussel et...
Moi, je pense que l'alliance peut tenir sur une majorité de circonscription. En revanche, c'est vrai qu'on voit qu'il y a plein de candidatures dissidentes un peu partout, en Occitanie avec Carole Delga, à Tahabouaf, à Vénissieux, mais aussi à Vaux-en-Velin ou à Villeurbanne, je crois.
Villeurbanne,
ouais. Ce qui est frappant, c'est, enfin, on voit tout simplement l'affrontement des deux lignes entre Tahabouaf et Fabien Roussel. C'est Fabien Roussel, la gauche populaire, gauche laïque, républicaine, et Tahabouaf, qui est un des nouveaux visages de la gauche radicale, tant sur le fond que sur la forme, et c'est à certains égards une alliance contre nature.
Mmh. Bruno Jeudy.
C'est-à-dire que Fabien Roussel défend un membre de son parti dans cette affaire,
oui,
face à un symbole,
voilà.
Face à un symbole qui est Tahabouaf, qui a déjà, à mon avis, sur son nom, est un repoussoir pour une partie des socialistes. On en a entendu plusieurs ici, Calfon et d'autres, protester contre l'investiture accordée à ce jeune élu, enfin ce jeune militant insoumis. Qui a un passé, notamment, qui a insulté
Linda Kebab.
Et donc, c'est visiblement un point de fixation maintenant, voire un point de fièvre entre les communistes et les insoumis. Il y a plusieurs comme ça, de points très compliqués. Hein. Les socialistes, eux, bataillent sur leur député du 20e arrondissement, qui est soutenu par Lionel Jospin, qui a décidé de faire campagne nuit et jour pour elle. Et donc là, on voit qu'il y a une difficulté. C'est Daniel Simonet, une proche de Mélenchon,
qui avait été battue par la députée socialiste.
Absolument.
Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs.
Et là, du coup, on destituerait en quelque sorte cette députée. Donc oui, il y a des difficultés qui vont se terminer mal, sans doute avec des dissidences.
Le problème, je suis en contact avec des militants et des socialistes. En fait, ils découvrent tous l'accord. Ils l'ont découvert après. Il n'y a pas eu de discussion entre la direction du PS qui a négocié l'accord et les instances. Le Conseil national l'a validé parce que Olivier Faure a une majorité, très bien. Mais globalement, maintenant, dans les circonscriptions, les gens découvrent ce qui se passe. Et que dans beaucoup de circonscriptions, on dit à des socialistes qui avaient été investis, c'est pas toi, c'est un France Insoumise qui sera, enfin, candidat, ou des Verts, enfin bref. Et les militants disent, mais attends, mais pourquoi? Moi, je vais pas les, ils disent, mais je vais pas aller faire campagne pour la France Insoumise, un gars qu'on connaît pas, on a des villes tenues par les socialistes, et pourquoi on va arrêter devant eux? Bon. Donc, ça, sur le terrain, ça va pas se passer aussi simplement que certains pouvaient l'imaginer.
Jean-Claude,
moi, je sais pas comment vont réagir les électeurs socialistes, et disons les électeurs de gauche, d'une manière générale. Je pense que, quelque part, ça leur a fait plaisir de revoir quelque chose qui pouvait ressembler à une union de la gauche. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est, sur le fond, pas très sérieux, et que l'accord lui-même, au plan des mesures proposées, de la ligne politique suivie, n'est pas très sérieux, et que c'est plutôt une espèce de sauve-qui-peut pour chacune des familles qui composent ce new look de l'union de la gauche. Comment les électeurs, notamment les jeunes, vont réagir à ça? Est-ce qu'ils... Bon, non, mais c'est quand même pas mal, c'est très à gauche d'abord. Et puis, bon, on existe, alors qu'on était mort avec une candidate qui pratiquement n'a pas existé. On va voir, mais je pense qu'il y aura quand même, je suis d'accord avec vous, il y aura beaucoup de dissidents. Et donc, une mauvaise surprise,
le Parti socialiste, qui est assez optimiste, parle d'une entre 20 et 30 cas de dissidence qui ne pourront pas être réglés autrement que par l'exclusion.
Ouais, allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant. On écoutera Marine Le Pen qui a parlé de la fable Jean-Luc Mélenchon. On l'écoutera tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudy de Paris Match, Alexandre Chauveau d'Europe 1, François Pivoni qui est député territoire de progrès du Val-d'Oise et Jean-Claude Dacier, éditorialiste. On va écouter Marine Le Pen, elle est revenue après 15 jours de repos pour prendre la parole, pour lancer la bataille des législatives. Écoutez ce qu'elle dit à propos de Jean-Luc Mélenchon.
La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein, ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça le discrédite absolument pour pouvoir se mettre dans la posture de l'opposant à Emmanuel Macron. Donc il joue les fous du roi. Jean-Luc Mélenchon est un ancien, mais il l'a été longuement, sénateur socialiste. On s'en débarrasse pas, on change pas les tâches d'un léopard.
Là, pour Marine Le Pen, qui était à Hénin-Beaumont hier, dans la circonscription qu'elle brigue, il était temps qu'elle revienne dans la campagne, Alexandre Chauveau.
Oui, assez terrée en quelque sorte après sa défaite au second tour. Elle était, je crois, là, c'est le Saint-Cloud, elle a pris quelques jours de vacances, 15 jours, et elle a laissé passer la grosse vague médiatique et politique de la nouvelle Union populaire de la gauche. Elle a laissé Jean-Luc Mélenchon vraiment occuper le terrain. Et là, ça y est, elle repart en campagne, elle remonte sur son cheval. Elle présentera demain tous les candidats aux législatives qui partiront sous la bannière du Rassemblement national. Donc voilà, pour elle, il y a deux enjeux. C'est un de l'enjeu financier pour ces législatives qui est très important parce que le Rassemblement national est en très mauvaise santé financière et que les législatives, c'est le premier moyen de financement des partis politiques. Et l'enjeu politique, c'est de ne pas laisser à Jean-Luc Mélenchon le soin d'occuper, enfin d'être le premier opposant à Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, Pour l'instant, il semble y arriver parce que dernièrement, il y a un sondage qui est sorti qui indiquait que pour les Français, Jean-Luc Mélenchon était le premier opposant à Emmanuel Macron.
Il a pris un peu de retard.
Donc,
elle a pris du retard.
Elle a raté le départ. Là.
Oui.
Elle a peut-être besoin de se refaire un peu, mais
je pense que Marine Le Pen, son élection, c'est la présidentielle. Les autres, on sait bien que les résultats sont souvent assez médiocres. On l'a vu aux législatives. À part les européennes, les dernières européennes qui ont été bonnes, puisqu'elle est son candidat Jordan Bardella est arrivé en tête, d'une courte tête, certes, mais il est arrivé en tête. Les autres élections, c'est quand même des élections où le Rassemblement national, pour l'instant, ne fait pas de bons résultats. Alors, il faut juste remettre en perspective, 2017, elle est au second tour, elle fait 6 députés. Hein. Alors bon, évidemment, au scrutin majoritaire, c'est très compliqué. Le plafond de verre se remet quand même en place pour les législatives, sachant qu'il n'y a pas de triangulaire, très peu, il n'y en aura pas, à mon avis. Mm-hmm. Donc, pour le coup, pour les candidats du Rassemblement national, ça va être compliqué, même si, à mon sens, ils seront quand même présents dans de nombreux duels de second tour. Combien aura-t-elle de députés? On voit bien, je suis d'accord avec Alexandre, son objectif, c'est d'avoir un groupe.
Mm-hmm. Donc 15 députés.
Elle ne veut pas faire croire à la FAB qu'elle peut gagner les législatives. En ça, elle se moque de Mélenchon. Et elle veut son groupe, elle veut 15 députés minimum. On verra si elle y parvient.
Oui, c'est pas son truc, l'Assemblée. Ouais.
Reste une petite question quand même, c'est le refus de l'accord avec Reconquête. Oui, alors je sais bien que leurs électorats sont différents, je sais bien que Zemmour s'est mal comporté avec elle, je sais bien qu'elle a été peinée de voir 3 ou 4 de ses collaborateurs partir. Néanmoins, ne fallait-il pas, pour cet électorat-là, je vous écoute,
pour avoir
un groupe, ne fallait-il pas aller tendre la main, peut-être pas à Zemmour, c'est un cas particulier, mais dire, avoir un autre discours vis-à-vis de Reconquête. Je m'interroge.
Je pense que l'Assemblée, c'est pas son truc. Moi, j'ai vu pendant 5 ans, débat parlementaire, elle s'y retrouve pas forcément. Bon. Veut-elle vraiment avoir un groupe? Moi, j'en doute, parce qu'effectivement, si elle avait vraiment voulu avoir un groupe, elle faisait l'accord avec...
Elle a besoin financièrement, François Pupin.
Oui, mais elle a besoin, mais dans ce cas-là...
Le RN, c'est 27 millions de dettes. Hein.
Mais on est d'accord. Mais dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il fallait faire un accord avec Reconquête pour dire, j'essaie de faire élire 2-3 députés pour Zemmour, je m'en fais élire 12, et puis on a un groupe, et puis on fonctionne. Si elle voyait vraiment l'intérêt pour avoir un groupe, il fallait faire un accord. Le fait de ne pas passer d'accord, ça va
lui
coûter...
Qu'elle ne voit pas l'intérêt. C'est qu'elle ne voit pas d'intérêt
pour moi. C'est très contradictoire.
Parce qu'elle veut y arriver sans
accord avec Reconquête. Je pense qu'elle veut démontrer cela, que ça ne sert à rien. Que Reconquête est une erreur du début à la fin.
Mais elle veut pas que Reconquête ait des députés.
Oui, c'est ça.
Que sans elle,
oui, mais.
J'allais dire, c'est les méthodes extrême droite. C'est le combat jusqu'à la mort. Avant, il y avait les duels, mais là,
si elle finit avec 12 députés
jusqu'à la fin.
Bruno, paradoxalement, on a le RN, parti très endetté, comme vous nous le dites, qui aura sans doute des députés, et on a Reconquête, parti plutôt riche, qui aura sans doute 0 députés.
Plutôt riche pour l'instant, il faut voir, parce que s'ils n'ont pas de députés, ils auront quand même, on verra combien de voix. Alors, le poids du financement politique de Reconquête va être aussi quand même dépendant du nombre de voix qu'ils vont faire. Et franchement, quand vous faites 7 à la présidentielle, que vous n'avez pas de sortant, les espoirs de combien de candidats dépasseront les 5, on verra. Hein.
Ils vont gagner quelques centaines de milliers d'euros par an, ce qui n'est pas rien.
Ah oui, surtout quand
ça permet d'avoir des permanents, un siège, et puis de pouvoir fonctionner, quoi, et de préparer l'avenir. Le Rassemblement national est en grande difficulté financière. Un groupe à l'Assemblée, c'est des moyens qui arrivent, c'est des revenus, c'est des permanents qu'on n'est pas obligé de prendre ensuite au parti.
Et donc, enfin, en termes purement stratégiques et financiers, le refus de l'accord, c'est pas forcément... On verra à la fin, si elle a plus de 15 députés. Si elle en a que 12, elle pourra s'en rendre droit.
Et Zemmour ne va pas prendre de risque, ne va pas y aller, à votre avis?
Il a plutôt laissé entendre qu'il n'avait pas pris sa décision.
Oui,
et pour l'instant...
Ça tarde un peu.
Alors, il y a la circonscription de France où il a fait le meilleur score, c'est celle qu'il visait dès le départ. C'est celle du 17e à Paris. C'est une sortante LR, Brigitte Kuster qui en est la députée. Est-ce que Zemmour s'y présentera?
Il a réfléchi un moment à la circonscription des Français d'étrangers en Israël, où il a fait un très gros score.
Il y a pris la place de Meir Habib. Voilà.
Il y a un moment, on a parlé
d'un. Il est assez proche, non? Enfin, deux hommes se.
Ouais.
Enfin, c'est pas. Faire tomber Meir, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il.
Bon, Alexandre Chabot.
Il est aussi question, pour Éric Zemmour, des circonscriptions dans le sud de la France, dans le Var. À Saint-Tropez, il a fait aussi des très bons scores. Voilà. Dans le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône. Et je crois que ça. On connaîtra sa décision cette semaine, en
d'accord.
Tout cas.
Marion Maréchal n'y va pas.
Oui, hein, mais sauf que voilà, Zemmour, il va juste comprendre que s'il est député sans groupe, ce qui sera le cas, il n'existe pas. Il n'aura même, parce qu'après, il faut être présent, il faut travailler, et puis souvent, on n'a même pas le droit de parler. Donc, on est en haut de l'hémicycle, tout en haut à droite.
Poulailler, quoi.
Poulailler, et sincèrement, on n'existe pas.
Donc, il vaut mieux pas se présenter?
Donc, je pense qu'il n'a pas intérêt à se présenter, lui.
Oui, non, c'est compliqué. Alors bon, ils ont les députés du FN jadis et du Rassemblement National aujourd'hui ont expérimenté hein, ça. Alors ils sont maintenant 6, alors ils peuvent un peu se serrer les coudes, mais ils étaient 2 ou
ils
étaient
2 ou 3. Oui, mais la CUI qui a fait le job, c'est Ménard, hein, c'est la femme à Ménard, qui a toujours été présente, qui a travaillé, qui était les autres, on ne les a quasiment pas vus.
Et Mélenchon ne veut pas se présenter non plus.
Évidemment. On va avoir des généraux qui ne se présentent pas.
Alors pour Mélenchon, c'est assez étonnant. Alors bon, en privé, il laissait entendre qu'il ne voulait plus aller à Marseille, que c'était fatigant, qu'il voulait se ménager. Alors après, quand on veut être candidat à Matignon et puis qu'on ne veut pas être député, il y a un petit paradoxe au passage. Je ne sais pas quelle est sa situation politique à Marseille. Moi, j'ai entendu que c'était
un peu compliqué
sur Marseille. Bon, après, on voit bien que Mélenchon veut prendre un peu de champ, rester comme une sorte de en surplomb de sa famille politique, et puis après, il verra ce qu'il en est plus tard.
Un petit mot du calendrier, là. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours? Nomination du futur Premier ministre quand?
Je vous ai dit ce qu'on entend chez Jean Castex, que lui, il part dimanche, il dit qu'il y aura un Premier ministre. Donc voilà, c'est
vendredi, a priori.
Vendredi, vous pensez?
Ouais, moi, je pense plutôt fin de semaine.
Avec le gouvernement, la semaine d'après,
Oui.
Parce qu'il faut le temps de mouliner, là.
Discussion sur ça va faire un peu. Parce qu'il faut aussi. C'est du storytelling. C'est-à-dire que Macron, une fois qu'il y a un Premier ministre, bon, ben, on laisse un peu le.
Il faut lui donner le sentiment qu'il sert à quelque chose.
On le laisse un peu s'installer. Médiatiquement, ça va exister. Et puis après, il y a les nouveaux ministres. Voilà, donc ça, là, il reprend un peu la main après avoir laissé quand même le film à Mélenchon.
D'accord. Jean-Claude Dacier, un pronostic?
Je me passais de faire un pronostic là. Simplement, il faut aussi quelqu'un ou quelqu'une qui soit capable, de faire campagne. Il va falloir qu'elle aille sur le terrain ou qu'il aille sur le terrain. Il va falloir vendre ce que nous ignorons encore pour l'essentiel, à savoir quelle politique le président de la République entend mener. Moi, je ne suis pas complètement éclairé sur ce
honnêtement,
point.
Honnêtement, on ne voit pas trop sur le programme des premiers mois du quinquennat, on n'est pas très éclairé, à part sa loi exceptionnelle sur le pouvoir d'achat.
Oui.
Les retraites, il n'en parle plus trop, on ne sait pas si ce sera...
C'est assez culotté quand même entre nous.
Non, il y aura une grosse loi pouvoir d'achat.
Mais très rapidement, là.
Oui, tout de suite.
Ça, c'est à peu près la seule chose.
Avant l'été.
C'est à peu près la seule chose.
Une situation économique
qui sera annoncée pendant la campagne, et ça sera le thème de la campagne.
Je pense qu'ensuite, il va mettre en place sa commission transpartisane sur les institutions. Ça va permettre aussi ça de mettre quelqu'un à la tête de ça. Donc, ce qui mettra un ancien président, un ancien Premier ministre, on verra.
Et puis donner de l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin.
Jean-Claude Dacier, François Pupponi, Alexandre Chabot, Bruno Jeudy, bonne soirée sur Europe 1. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les infos. Et ensuite, Mouloud Achour pour Verman Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.